Ma question est sur quel critère la Grande Église n'a pas retenu ces textes-là par rapport à
vous. C'était la même question, avec une précision. Parce que vous, on a vu pendant votre exposé qu'il y avait des textes hein, qui étaient qui n'ont pas été retenus alors qu'ils n'étaient pas hérétiques. Et des textes qui n'ont pas été retenus parce qu'ils étaient hérétiques. Donc le critère, ce n'est pas le fait qu'ils soient hérétiques. Alors, quel est le critère qui explique la constitution du Nouveau Testament ?
À l'époque de Jésus, je crois qu'il y avait pas mal d'autres hommes qui étaient annoncés comme étant des messies, enfin, qui se disaient messies. Est-ce qu'il y a des textes qui ont été aussi retenus ou écrits sur eux et que vous connaissez seulement sur Jésus ?
Alors, pour les autres messies, messies dans le monde juif, du coup, Flavius Josèphe nous parle d'autres personnes, un peu comme il dit à cette époque un certain Jésus, voilà, un certain Josas, un certain. Voilà, notre source principale, c'est Flavius Josèphe, c'est jamais très développé, c'est jamais plus qu'un paragraphe, et généralement, c'est l'histoire d'un mouvement qui monte, de gens qui se rassemblent et puis ça s'effondre. On n'a pas beaucoup de détails sur le message qui était transmis par la personne en question. Pour le critère de l'apocryphité et canonicité, c'est une question épineuse, difficile d'y répondre en une seconde. Donc effectivement, ça n'est pas l'hérésie qui est un critère. Et ça déjà, si vous repartez avec cette conviction-là, c'est-à-dire que apocryphe ne veut pas dire hérétique, ça c'est déjà beaucoup. L'auteur qu'on ne peut pas éviter à ce moment-là, en fait, c'est toujours Irénée de Lyon, parce que donc à la fin du IIe siècle, il est le premier à faire vraiment un traité de théologie qui techniquement n'est pas un traité de théologie. On l'appelle de façon familière en français le contre les hérésies. Le vrai titre, c'est dénonciation et réfutation de la gnose au non-menteur. C'est un traité qui est écrit contre les gnostiques pour dire que justement la conception chrétienne du christianisme qu'a Irénée, elle s'oppose à la conviction gnostique. Et Irénée, pour essayer de... Donc va faire deux choses, va à la fois vilipender les gnostiques en en disant du mal et en disant que leurs théories sont vraiment... Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Évidemment, hein, si vous voulez laminer un mouvement, vous ne dites pas ce qu'ils disent, c'est drôlement bien, c'est drôlement clair. Voilà. Non, vous dites c'est compliqué, c'est bizarre. Et il va dire aussi que les chrétiens... ils refusent le titre de chrétien aux hérétiques, aux gnostiques, et il dit que les chrétiens sont les gens qui ont quatre évangiles, ni plus ni moins. Enfin, vous savez que la formule éclate d'Irénée, c'est un évangile sous quatre formes. Donc une bonne nouvelle sous quatre formes, les quatre textes qu'on connaît. Donc c'est la première fois qu'on voit ce souci d'exclure et de poser des cadres. C'est la première fois qu'apparaît l'idée de canon, mais ça ne nous résout pas notre problème parce que ça ne parle que des évangiles, ça ne parle pas de l'ensemble des textes. Et c'est un processus qui est extrêmement organique. C'est pour ça que c'est bizarre, et c'est pour ça que nous aussi on a du mal à le concevoir, c'est que nous on aimerait bien qu'il y ait quand même, on sait qu'il y a des conciles au 4e siècle, au 5e siècle, on aimerait bien qu'il y ait un concile qui dise, alors les textes canoniques c'est ça, ça et ça. Et ça, avant le concile de Trente, qui ne concerne donc que les catholiques, ça n'est pas fait, ça n'existe pas. Et même au XVIe siècle, on voit qu'il y a encore des débats sur le Nouveau Testament. Vous vous souvenez que dans ses premières éditions, Luther aurait quand même bien voulu que l'Apocalypse, l'Épître aux Hébreux, l'Épître de Jacques, voilà, alors la première édition de la Bible, elles sont à part. Sur la table des matières, elles sont décalées vers la droite. C'est statut quasiment secondaire. Et puis, Mélenchon lui a dit, non, écoute, c'est pas ça, c'est pas possible, on va pas pouvoir enlever des textes du Nouveau Testament, on prend tout. Bon. Et le Concile de Trente a réaffirmé la même chose en disant, bah voilà, la liste des 27 textes du Nouveau Testament. Donc, voilà, un édit conciliaire, ça ne nous aide pas, on n'aura pas la réponse. Chez les Pères de l'Église, le premier qui parle de la question, c'est Athanase en 363, donc on est quand même assez tard, on est au 4e siècle, et ce n'est pas prescriptif, c'est descriptif. Voici les livres que nous lisons. Donc, pour nous, ça a une valeur informative, mais vous voyez que ça... Athanase, il est juste patriarche d'Alexandrie. Il n'est pas en train de dire toute la chrétienté doit fonctionner comme ça. Donc la meilleure façon de comprendre les choses, c'est qu'en fait, d'une façon qu'on ne s'explique pas très bien, il y a un certain nombre de textes qui ont été reçus par tous les chrétiens partout. et il y a un certain nombre de textes qui n'ont eu que des existences régionales. Et ceux qui ont des textes qui ont des existences régionales, parfois c'est parce qu'ils sont hérétiques, et parfois c'est parce qu'ils ne sont pas intéressants. Tout est possible. C'est-à-dire que c'est vraiment la question en fait, de l'avenir d'un texte, du devenir d'un texte. Mais en fait, nous, on réfléchit par rapport au Nouveau Testament, mais la littérature grecque, c'est pareil. Enfin, on a 7 tragédies de Sophocle, 7 tragédies d'Eschyle, 18 tragédies de Ripide. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas 70 ou 100 ? On sait qu'ils ont écrit des trilogies tous les ans pendant X années. Il y a un tri qui s'est fait, il y a une sélection qui s'est faite. Et cette sélection-là, on ne peut pas en rendre compte. C'est pareil pour le Nouveau Testament. Donc des textes avec des diffusions plus limitées, on préfère les textes qui sont lus par tous, probablement que vers le milieu du IIIe siècle, l'ensemble des chrétiens est à peu près d'accord pour distinguer ce qui est lu par tout le monde et ce qui n'est lu que chez nous. Typiquement, Origène, quand il nous parle de l'Évangile des Hébreux, c'est un texte qui probablement existe chez lui. On ne cherche pas à le détruire. On ne cherche pas à l'enfermer ou quoi que ce soit. Simplement, il n'est pas lu par tout le monde, on peut aller le consulter. Il y a des communautés qui le lisent, mais pas toutes. Voilà. Donc c'est un peu cette existence en parallèle. Petit à petit, en revanche, souvent, quand un texte est exclu, ce n'est pas tellement à cause de ce qu'il raconte, c'est à cause de la communauté qui le lit. C'est-à-dire que si une communauté est vraiment... Et là, ça va être Cyril d'Alexandrie, beaucoup qui va faire du ménage au 5e siècle... Si une communauté est perçue comme déviante pour une raison ou une autre, par exemple son problème dans le rapport au corps, plutôt dans le sens de l'ascèse excessive, là on va dire, bon, à cette communauté-là, il faut la remettre dans le droit chemin. Donc les livres qu'elle lit en propre, ce sont des livres qu'on ne peut plus lire. Et donc par exemple les codex de Nag Hammadi qui sont des supports textuels du 4e siècle, l'objet du 4e siècle, c'est probablement ce qui s'est passé. C'est-à-dire une communauté qui a disparu, qui a fermé, qui a enterré ses livres, et puis voilà. Les apocryphes qui ont continué à se diffuser, ils ont continué à se diffuser parce qu'ils ne présentaient pas, ils n'étaient pas liés à des mauvaises communautés, ils ne présentaient pas d'idées bizarres, mais ils ne se sont pas diffusés absolument partout. Je vous ai fait une liste de langues tout à l'heure. Ce n'est pas tous les chrétiens de partout qui les ont lus, c'est beaucoup de chrétiens dans beaucoup d'endroits, mais pas absolument tous partout. Et après, on a utilisé des termes différents, le terme apocryphe étant un peu trop lié à cette notion justement d'hérésie. Par exemple, chez les catholiques, on parle de tradition. La tradition raconte que Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie, voilà. La tradition raconte que les mages s'appellent Gaspard, Melchior et Balthazar. Donc on refait un mot, un autre mot qui peut être utile aussi dans le vocabulaire scientifique, c'est hagiographie, les récits sur les saints. Voilà. Ça nous permet d'avoir une catégorie comme ça, qui n'est pas patristique, qui n'est pas hérétique, mais qui parle de textes qui ont continué à se transmettre. Mais voilà, je n'ai pas de meilleure réponse à vous apporter, c'est organique. J'en prends trois questions.
Il reste encore... Je pose mon livre sur cette explication. Est-ce qu'un des critères, c'est quand même pas l'ancienneté du texte aussi ?
Pas vraiment. Parce que l'évangile de Thomas, certains chercheurs mettent un noyau entre 60 et 80.
Est-ce que c'est pas controversé, cette datation assez ancienne ?
Ben, ça dépend. On s'en sort toujours en parlant de noyau, en fait. En disant que c'est pas forcément le texte dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, mais une forme ancienne, et comme on l'utilise dans les débats pour ce qu'on appelle la source Coup, donc la source de Matthieu et de Luc, on pense que Thomas dérive de Coup comme Matthieu et Luc. Que ces trois textes, en fait, ont un peu le même... sont trois lectures différentes de la même source. Donc, rien ne nous empêcherait de le dater des mêmes années que Matthieu et Luc. Mais voilà, c'est discuté. Et ce qui est possible, c'est que le texte qu'on a aujourd'hui est connu aussi des évolutions par rapport à sa première version. Ne serait-ce que parce que les manuscrits qu'on a en grec, qu'on a trouvé en grec à Oxyrinque, présentent un texte différent, qui n'est pas la traduction exacte du copte qu'on a trouvé à Nag Hammadi. Donc on a plusieurs versions à chaque fois. Voilà. Donc non, l'ancienneté n'est pas vraiment retenue comme critère. Il n'empêche qu'effectivement, la plupart des textes du Nouveau Testament sont antérieurs à la plupart des textes d'Apocryphe. Oui ? Alors, trois questions.
Incroyable, Thomas. On a parlé du retable de Montbéliard pour le montrer, et parmi les textes bibliques, c'est tous les textes des quatre évangiles, sauf qu'il y a un panneau qui parle de Nicodème.
Oui.
Il y a un évangile de Nicodème.
Absolument.
Et puis, il y a aussi, alors, dans mes recherches, il y a aussi un évangile arabe. Il existe, c'est ça
Oui, l'évangile arabe de l'enfance.
De l'enfance, oui.
Alors, l'évangile de Nicodème, si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait un clin d'œil à votre communication en mettant l'évangile de Nicodème aussi. Donc, l'évangile de Nicodème, c'est un texte composite qui est très intéressant, qui est en deux parties. Il se trouve que je fais partie de l'équipe qui l'édite, donc il m'est familier. La première partie, c'est le procès de Jésus et les histoires qui arrivent à Joseph d'Arimathie. Et vous vous souvenez de ma première diapo sur les apôtres, je vous ai parlé de pseudépigraphie, avec ce souci de se mettre sous l'autorité d'un apôtre. Il est probable que la communauté d'origine qui lisait ce texte-là, c'était une communauté liée à Joseph d'Arimathie. Et Joseph d'Arimathie, dans ce texte, est le premier témoin de la résurrection. C'est-à-dire, la première chose que Jésus fait quand il sort du tombeau, c'est d'aller récupérer Joseph qui est en prison. Et ce texte-là a eu énormément de succès dans l'Antiquité. Il a été traduit, pareil, dans toutes les langues de l'Empire romain. Et quand il a été traduit en latin, probablement vers le 5e siècle, il a à un moment reçu une suite, quelque part entre le 6e et le 9e siècle, une suite qu'on appelle la descente aux enfers. Et donc l'évangile de Nicodème, c'est l'ensemble de ces deux textes, les actes de Pilate, donc c'est le procès de Jésus avec le cœur de Joseph d'Arimathie, et la descente aux enfers. Ça, c'est l'évangile de Nicodème, et l'évangile de Nicodème, c'est un best-seller du Moyen-Âge, un best-seller absolu. C'est-à-dire qu'on a plus de 500 manuscrits de l'évangile de Nicodème. Si vous voulez, on a 10 manuscrits de la guerre des Gaules. Hein. C'est vraiment... L'évangile de Nicodème était dans toutes les bibliothèques monastiques parce qu'il répond à deux questions qu'on se pose. C'est le procès de Jésus, pourquoi c'est si mal raconté dans les évangiles? Pourquoi c'est si bref? Pourquoi alors que Jésus est devant Pilate, on n'a pas de détails? Et alors dans les actes de Pilate, il y a un vrai procès, les témoins viennent... moi j'étais boiteux et maintenant je marche bien, moi j'étais aveugle, j'ai retrouvé la vue, moi j'avais des pertes de sang et je suis guérie. Ah oui mais toi t'es une femme, on t'écoute pas, ok, et on continue comme ça. Et puis bon, bah, l'accusation et la mise à mort et la résurrection. Et deuxième chose, la question de la descente aux enfers, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont morts avant la résurrection de Jésus? Est-ce que si on a vécu avant Jésus, du coup on va rester mort toute sa vie? Est-ce qu'il y a une promesse de résurrection pour ceux qui étaient déjà morts au moment où Jésus est mort? Et donc ça apporte en fait une sorte de réponse narrative par le récit. Vous savez qu'aujourd'hui c'est très important de mettre en récit, bon ben, l'évangile de Nicodème met en récit ce « est descendu aux enfers ». Et ça fait aussi que ça a été un texte très lu, ça on le voit dans les catalogues des bibliothèques, ce texte-là est lu très souvent dans les repas du samedi saint. C'est-à-dire le repas que vous prenez le samedi midi quand vous êtes au monastère, entre le vendredi saint et la résurrection, eh ben on lit l'évangile de Nicodème parce que c'est la meilleure chose qu'on ait à lire à ce moment-là. Donc fondamentalement, c'est un texte qui n'est pas hérétique, dans la mesure où il a été lu dans tous les monastères, alors pas lu à l'église, mais lu par des chrétiens. C'est un texte qui est encore présent dans la piété populaire au XXe siècle. On a des traductions pour des chrétiens protestants dans le Manitoba, au XXe siècle, donc au Canada, qui lisent des traductions de l'évangile de Nicodème, des mises en musique en Pologne, enfin vraiment une destinée extraordinaire. Le texte de départ, il est probablement né dans une communauté judéo-chrétienne, donc des chrétiens d'origine juive. On a l'impression que tous les personnages sont juifs dans les textes de Pilate, même Pilate fait un récit de la sortie d'Égypte comme s'il était juif et qu'il était en mesure de raconter les bienfaits du Seigneur. Voilà, donc c'est un texte qui est très curieux, mais qui a toujours été jugé intéressant par les communautés chrétiennes, et donc a toujours été lu, et quand on en parle pour sa réception, on ne manque jamais de citer le rétable de Montbéliard, parce que c'est vraiment un des moments où il sert de manière explicite dans une œuvre d'art. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre qualité d'écoute, j'ai beaucoup été très contente d'être avec vous ce soir.